à Saint-Paul-de-la-Croix, les citoyens, à moins que ce soit parti par la poste hier, les citoyens n'avaient toujours pas reçu leur compte de taxes qui permet, avec ces entrées d'argent-là, naturellement, de faire tourner les activités de la municipalité. Parce qu'une municipalité, c'est comme votre famille, là, c'est comme votre... Vos affaires à vous autres, là. T'as des dettes, puis il faut que tu payes, puis t'as du monde à payer, puis t'as des factures à rembourser, puis t'as des prêts à rembourser, puis t'as... Ça prend de l'argent. Une municipalité, ça vit pas de l'air du temps. Les citoyens, donc, n'ont pas reçu leur compte de taxes encore. C'est un des sujets qu'on va aborder avec le maire Simon Périard, qui est en ligne. Bonjour, M. Périard.
Bonjour.
Bon, est-ce qu'il faut faire le constat rapide, là, la dissension au conseil municipal, la chicane, les votes, les séances reportées, tout ça, est-ce que c'est l'addition de ces événements-là qui fait que, finalement, le compte de taxes n'est pas encore rendu dans la boîte aux lettres des citoyens?
Non, pas du tout. C'est pas lié du tout. C'est en fait le budget qui avait été déposé plus tard cette année. Donc, après le dépôt du budget, il y a un délai de 60 jours qui est permis par la loi pour envoyer les comptes de taxes aux citoyens.
Mais le budget, si ma mémoire est bonne, puis vous me reprendrez, là, ça n'a pas été facile de le faire adopter. Il y a eu un certain retard, là.
Il y a eu un certain retard dans l'adoption, environ une semaine.
Ah, pas plus mais... que ça.
Non, pas plus que ça. Il a été déposé le 4, il a été adopté le 11 février.
Je présume que tout le monde est tout le monde, ça veut dire ici toutes les municipalités là sont soumis aux mêmes réglementations. Mais comment se fait-il qu'on soit aussi tard dans la livraison à Saint-Paul-de-la-Croix, alors que dans d'autres municipalités, si je prends l'exemple de Rivière-du-Loup parce que j'y habite, ça fait longtemps qu'on a reçu le compte là, même que le premier versement a été fait là.
Ben c'est à chaque année, c'est notre compte de taxe est en retard, donc on travaille là-dessus, essayer de raccourcir les délais.
Mais c'est de la faute à qui, M. Périard?
Pour le compte de taxe,
ben oui, ben oui, ben oui.
Ben c'est la faute à qui? Le conseil travaille présentement à améliorer les choses, mais bon, on sait que c'est l'administration qui doit produire les comptes de taxes, c'est pas le conseil municipal. Donc on travaille là-dessus.
Non, mais je veux dire, M. Périard, c'est pas on tourne autour du pot inutilement. C'est parce que il y a pas assez de monde. Ça prendrait, je sais pas, au moins d'employés à demi-temps de plus quand ça vient le temps de mettre le compte de taxes. La personne qui est là fournit pas, est pas assez vite. C'est quoi?
Bon, on a embauché une nouvelle employée au mois de février. Dernier. Donc, maintenant, on a deux employés, ben, la directrice générale et une adjointe au bureau municipal. Donc, on espère que ça va résoudre certains problèmes de délai.
OK, parce que d'après ce qu'on entend dire, puis vous le confirmez ce matin, là, c'est pas la première année que c'est en retard, c'est quasiment toujours en retard.
Oui, si on regarde les procès-verbaux des années antérieures, il y a des délais qui sont demandés à chaque année.
OK. Et pourtant, j'insiste là-dessus, puis c'est ma dernière question, à moins que je me trompe, le compte de taxes d'un individu, sauf le moment où il y a une révision du rôle d'évaluation, ça va être la même affaire l'année passée, cette année, puis l'année prochaine, s'il n'y a pas de changement au niveau du budget. Dans le fond, le calcul, il se fait toujours de la même manière.
Il se fait de la même manière. L'année passée, on a eu la révision du rôle d'évaluation. Donc, cette année, il va y avoir de grosses variations.
Oui. Ça, c'est comme on dit, pour les municipalités, c'est le fun parce que dans bien des cas, c'est des entrées, de nouvelles entrées d'argent. Puis en même temps, ben, ça permet aux municipalités de dire c'est pas de notre faute, c'est la faute du rôle d'évaluation. Puis le rôle d'évaluation, c'est pas nous autres qui le fait.
Non, pas du tout. Nous, dans notre cas, nous, à Saint-Paul, l'année passée, on collectait 256 000 de taxes foncières.
Ouais.
Cette année, on est autour de 252 000.
Ah.
Donc, la moyenne générale est la même. Cependant, c'est des distorsions qu'on a. Dans le village, il y a eu des baisses de 20 à 30 % des valeurs. Puis dans les rangs, on a eu des hausses qui vont de 10-15 % jusqu'à 65.
Mais là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le rôle d'évaluation, de façon générale, va faire baisser vos revenus de taxes?
Le rôle en tant que tel, on a juste un taux de taxe en fonction de ça.
Je comprends ça, mais je veux dire, dans le sens que vous auriez pu compter sur de l'argent nouveau provenant du rôle d'évaluation, c'est le contraire. Le rôle d'évaluation, au net, là, en bas de la feuille, il vous rapporte moins.
Il nous rapporte moins à cause qu'on a baissé le taux de taxe. On a fait une petite... baisse de taxes aux citoyens parce que le taux de taxe a baissé de 20 % pour ramener l'équilibre, justement, garder le même total de taxes perçues.
OK. Non, ben c'est parce que j'avais compris que le rôle d'évaluation, à partir du moment où il a été révisé l'an passé, que généralement, là, la valeur foncière de la municipalité avait diminué. Donc, j'ai mal compris, là.
Oui, parce que la valeur foncière de la municipalité à Saint-Paul a monté d'environ 4 millions l'année passée. Donc, c'est pour ça qu'elle a monté de 20 % la valeur totale.
OK, ça a monté, ça n'a pas descendu.
Okay. Non, ça a monté la valeur totale, donc on a baissé le taux de taxe d'environ 20 %.
C'est bon. Il y a la fameuse dette de 252 000 $ que vous vouliez rembourser. C'est chose faite, sauf que vous ne l'avez pas remboursé avec les surplus, vous l'avez remboursé avec la taxe d'accise, c'est ça?
Exactement.
Dans l'esprit que vous aviez au départ, ça ne s'est pas terminé comme vous vouliez.
Ben, ce qu'on voulait, c'est arrêter de payer des intérêts. Donc, peu importe la source de revenu, on ne sera pas contre ça que ce prêt-là soit payé.
OK. Donc, peu importe comment, en autant que ça n'augmente pas le compte de taxe, et puis que ça occasionne pas des dettes en termes d'intérêts accumulés. Vous, ça fait votre affaire comme ça.
Bon, du moment qu'on arrête de payer des intérêts pour rien, peu importe la source du revenu, je pense pour le bien des citoyens, c'est parfait.
Le climat au conseil, comment ça va, M. Périllard? Pas mieux, pas pire? Ou...
Là, on est en travail présentement, toujours avec le ministère, donc c'est pas simple, c'est compliqué, mais on y travaille.
Puis le ministère, lui, évidemment, il ne pourra pas passer sa vie là, à Saint-Paul, le ministère. Quand est-ce qu'ils vont vous laisser la main, là, puis vous laisser aller?
Ils vont, quand ça va aller mieux. Eh,
hey, monsieur, ça pourrait être long.
Ah, ben là, c'est un rôle d'accompagnement.
Il doit avoir des maisons à vendre à Saint-Paul?
pas plus qu'il y en avait avant.
Je veux dire, dans le sens que le gars du ministère pourrait être intéressé de s'en acheter une, ça pourrait être long.
Ah, ben là, on pourrait y proposer, c'est une bonne idée.
Non, mais plus sérieusement, M. Périllard, avez-vous l'impression que tout ce travail-là, je sais en même temps que vous devez ménager probablement certaines susceptibilités puis faire attention à ce que vous dites, là, mais avez-vous l'impression que le gars du ministère, présentement, là, il fait bien son possible, mais en même temps, il perd son temps? Avez-vous l'impression que ça avance, même si c'était rien que d'un pouce par semaine, là? Avez-vous l'impression qu'il y a de quoi qui avance au niveau de ce qu'on pourrait ramener comme semblant d'harmonie au Conseil?
Ben le problème au niveau du ministère, c'est que c'est un rôle d'accompagnement. Autrement dit, l'exemple qu'on nous a donné, il y a plusieurs temps, on est régi par le code municipal. Les gens du ministère sont là pour faire respecter le code. C'est comme si on comparait un policier sans patte d'étiquette. Donc, le ministère peut venir nous dire qu'il y a des choses qu'on fait conformes ou non, mais le ministère ne peut pas nous imposer des choses. Ça demande toujours la décision du conseil.
Ouais.
Donc, rendu là, il n'y a pas de pouvoir particulier au ministère pour nous imposer, donc il faut faire avec.
En fait, vous pourriez continuer de vous chicaner longtemps, en autant que la chicane est légale. C'est-à-dire que le vote se prend, il y a deux pour, deux contre, le maire tranche ou le maire demande un ajournement ou n'importe quoi. Tant que c'est légal, ça pourrait durer encore longtemps.
Ben, ça pourrait, mais c'est pas souhaitable.
Non, mais je veux dire, ce que vous me dites, là, quand vous dites le ministère des Affaires municipales, puis son délégué, c'est comme un policier, pas de patte de ticket. Dans le fond, lui, tant que c'est légal, il peut pas rien faire. Sinon, vous incitez à être de meilleurs administrateurs des affaires municipales.
Que ce soit légal ou non, il peut pas nous inciter.
Okay.
Donc, il peut nous recommander.
Bon, M. Périllard, moi, je veux pas retourner dans ce dossier-là inutilement, là, mais on a compris que, autant pour le schéma d'aménagement de la MRC de Rivière-du-Loup, autant dans le dossier de la SEMER, Simon Périllard lève la main là pour dire « c'est bien de valeur, mais l'information est très difficile à avoir ». Puis quand on en a, ça arrive au compte-gouttes, puis c'est pas facile non plus de savoir ce que les autres en pensent. Est-ce que je me trompe? Et si je me trompe, corrigez-moi.
Non, vous ne vous trompez pas, c'est une constat réel.
Et vous allez devenir fatigant, là, autour de la table des maires de la MRC?
Ah, mais ça, quand on pose des questions, j'imagine que certains peuvent avoir une perception comme ça, mais je pense pas qu'à faire son rôle d'élu, poser des questions et s'informer, on devient fatiguant à faire ça. Le moyen de ne pas être fatiguant, c'est de répondre aux questions.
Oui. Parce que dans le cas du schéma d'aménagement de la MRC, qui a été présenté jeudi passé, vous auriez voulu avoir plus d'informations. Qu'est-ce qui vous chicote présentement sur le schéma d'aménagement? Elles sont où, vos questions, à propos de quoi?
Du schéma au complet.
Ah bon? On part de loin?
Du schéma au complet. Ben, c'est des dossiers qui sont très complexes. Il faut comprendre que on est des élus à temps partiel. Les petites municipalités comme nous, là, c'est pas notre job à temps plein. Alors, on parle des documents de 300 pages, un schéma d'aménagement, qui sont résumés à une présentation de 10 minutes, que c'est la première fois qu'on en parle réellement en profondeur. Ça devient difficile de savoir où on s'en va avec ça.
Ouais. Mais quand vous posez des questions, vous avez pas de réponse ou quel genre de réponse vous avez aux questions que vous posez?
Ben, ça dépend toujours de la question qu'on pose. Parfois, on a des réponses. J'ai rencontré M. Marcellet justement pour lui demander est-ce qu'on pourrait avoir un topo, c'est quoi le schéma d'aménagement, puis toutes les grandes lignes de ça, qui viennent nous expliquer ça à Saint-Paul, parce que on a beaucoup de nouveaux élus, puis c'est quand même complexe. C'est pas simple, un schéma d'aménagement. Donc, il a accepté, il va venir, puis on va séduler ça bientôt, sauf que ça devrait être un travail qui est fait en amont.
Ouais. Et pourquoi ce serait à la pièce, M. Périllard? Pourquoi ce serait pas une séance d'information dans un lieu donné, une journée donnée, puis préférablement la fin de semaine, parce qu'on a affaire dans tous les cas ou dans presque tous les cas à des maires puis des conseillers qui sont loin d'être à temps plein, là. Pourquoi ce serait pas une séance d'information pour tout le monde? Parce qu'en principe, ça devrait intéresser tout le monde, pas seulement Saint-Paul.
Exactement. Ben ça, c'est une bonne question. Le pourquoi, je peux pas vous répondre. Mais idéalement, plus on donne d'informations, moins il y a de questionnements. Puis ça va dans le même sens. La semaine, c'est la même chose. J'ai demandé des états financiers depuis longtemps que ce soit rendu public. Puis on attend toujours.
Ouais. Vous avez dit Roger Plante du réseau d'information sur les municipalités et vous a posé des questions citoyen dit la CMR c'est un contrat clé en main. Vous avez répondu contrat clé en main, ça dépend qui tient la clé. Et là le citoyen vous dit là c'est qui et vous répondez ben je le sais pas encore. C'est assez énigmatique.
Au niveau de vous parler, le contrat clé en main, ça me rappelle rien, je sais pas.
Ça vous rappelle rien?
Non.
Bon, ben, si ça vous rappelle rien, on va passer vite parce que j'ai ça sur ma feuille, puis c'est le verbatim d'une séance où vous auriez été questionné là-dessus. Et de toute manière, les états financiers, vous personnellement, vous les attendez encore, comme bien d'autres d'ailleurs. OK.
Ouais, c'est ça. On m'a confirmé que je les aurais pas.
Bon.
Ça sera pas public.
Oui. Et vous dites, c'est pas parce qu'il y a un partenaire privé là-dedans qu'on devrait pas pouvoir avoir les états financiers, étant donné qu'il y a beaucoup plus de public que de privé. En fait, votre argument, c'est ça.
Ben, peu importe le pourcentage, on regarde Énergex, avec qui on a une très bonne entente. Tous les documents sont publics. Les états financiers sont déjà publics.
Oui. OK. Il y a eu des hydrocarbures qui ont été détectés dans la fosse septique du garage municipal. Ça vient d'où? Ça a coûté combien pour régler le problème, si le problème est réglé?
Le problème est toujours pas réglé. Ça a coûté pas loin de 5 000 $ pour le faire vider puis se débarrasser du contenu dans les normes.
Ouais.
Là, on y travaille. On a embauché. On a donné un contrat à une compagnie externe pour qu'ils viennent faire les analyses, trouver la source et ensuite procéder aux réparations s'il y en a et au nettoyage.
Parce que la fosse septique du garage municipal, ça pourrait, je dis bien, ça pourrait impliquer que des hydrocarbures aient juste été versés accidentellement ou volontairement dans les égouts. C'est peut-être pas plus compliqué que ça, là.
Il peut avoir plusieurs sources, sauf que au prix que ça coûte à tout décontaminer, on va s'assurer de trouver la source via l'égout.
Ouais. Non, mais vous comprenez que je vous dis ça comme ça, parce que mettons que la fosse septique en question serait la fosse septique des cuisines d'une cafétéria. Évidemment que s'il y avait du gaz dans la fosse septique, on se demanderait que ça fait là, comment c'est arrivé là. Dans un garage municipal où il y a de la machinerie, c'est peut-être accidentel.
Ce qu'il faut comprendre, la fosse septique, on a sorti les plans. C'est que tous les puiseurs du fond du garage, selon les plans, mènent à l'extérieur, même pas à la fosse. La fosse, il y a seulement le lavabo et la toilette reliés à la fosse septique.
Ouais.
Il faut voir dans les connexions à l'époque, okay, est-ce qu'il y a eu une erreur ou quoi, c'est ce qu'on va vérifier en premier lieu. Mais normalement, les eaux du garage ne vont pas dans la fosse.
Je comprends très bien. Puis, dernière question, les étangs aérés ne seraient pas conformes à Saint-Paul, selon le ministère de l'Environnement. Un, est-ce que c'est vrai? Deux, qu'est-ce que vous allez faire avec ça?
Oui, c'est vrai, puis on va résoudre la problématique. C'est l'enregistrement des débordements. Ça prend un petit module pour enregistrer tous les débordements de la fosse, puis nous, on n'en avait pas. Donc, comme plusieurs autres municipalités au Québec, d'ailleurs, donc on a reçu un avis du ministère, puis on va voir à installer ce module-là.
Merci, M. Périllard.
Ça me fait plaisir.
Le maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Simon Périllard, on prenait des nouvelles de Saint-Paul ce matin.